Saviez-vous que Jésus nous a chargés, en tant que croyants, d'aller prêcher l'Évangile à un monde perdu et mourant, d'imposer les mains aux malades et de les voir guérir? Il veut que nous participions tous à la transformation du monde. Nous sommes des porteurs de sa gloire, des porteurs de sa miséricorde et de son amour. Mais en vérité, nous n'arriverons jamais à faire ce travail. Nous ne pouvons pas le faire sans nous appuyer sur le Saint-Esprit. Nous allons en parler. Vous ne devez pas manquer une seule minute. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Après la résurrection, Jésus a passé 40 jours ici, où il est apparu à plusieurs reprises à ses disciples et a passé du temps avec eux, leur donnant la preuve infaillible qu'il était bien le Fils de Dieu et ressuscité. Et puis, sur le mont des Oliviers, juste avant de quitter la terre pour monter au ciel et s'asseoir à la droite du Père, il a parlé aux disciples et leur a donné quelques dernières instructions qui sont aussi valables pour nous. Et nous le lisons dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il dit, « Attendez la promesse du Père. Vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint et vous recevrez une puissance. » Tout le monde dit puissance. C'est le même mot traduit par miracle dans tout le Nouveau Testament. Ceci va dans le même sens que dans les versets où on dit qu'une force ou une puissance sortie de Jésus pour guérir les multitudes. C'est le même mot, puissance de guérison, puissance pour faire des miracles, pour sa gloire dans notre voisinage et dans le monde entier. Pour ceux qui étaient là le week-end précédent la Pâque, j'ai parlé de la conversation finale que Jésus a eue avec les disciples. Nous avons souligné qu'il a parlé en détail. Il a en effet parlé en détail du Saint-Esprit et de son ministère, de ce que les disciples devaient savoir et attendre de la part du Saint-Esprit lorsqu'il viendrait. Et il a dit, « Il vous réconfortera, il vous fortifiera, il vous révélera l'avenir, il vous rappellera ma parole, il vous guidera dans toute la vérité et il vous aidera à témoigner, à convaincre un monde perdu de la réalité et de la disponibilité du salut. » Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous remplit personnellement. Il enrichit nos vies personnelles. Il nous guide, il nous fortifie. Il nous réconforte à un niveau personnel. Mais il nous donne aussi le pouvoir d'être des instruments pour influencer les autres en faveur du royaume. Il fait des choses en nous et pour nous, mais il fait aussi des choses à travers nous. Et c'est ce que Jésus souligne ici, dans ces versets. Vous recevrez une puissance miraculeuse pour être mes témoins. Donc, c'est à la fin des 40 jours. Jésus leur a parlé du royaume. Ils réalisent que leur mission est de sortir et de prêcher la bonne nouvelle à tous les hommes. Jésus est sur le point de monter. Et que dit-il? Vous savez que le message est vrai. J'ai été ressuscité des morts. Le salut est disponible pour un monde perdu et mourant. Les gens peuvent éviter l'enfer. Ils peuvent aller au paradis. Ils peuvent être en relation avec moi. Voici donc les dernières instructions que je vous donne. Nous avons ce monde perdu et mourant. Attendez. Attendez. Attendez la promesse du Père. Dans peu de jours, vous serez remplis, baptisés de l'Esprit Saint. Et il se trouve qu'ils ont attendu environ 10 jours. Et nous arrivons à Actes 2, au verset 1. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et mes amis, dans le Nouveau Testament, les expressions « remplies du Saint-Esprit » et « baptisées du Saint-Esprit » signifient la même chose. Il s'agit de la même expérience, et j'aime la façon dont le Saint-Esprit s'est manifesté quand il est venu remplir ses croyants. Il y a eu un bruit venant du ciel, comme un vent puissant et impétueux, et des langues de feu séparées se sont posées sur chacun d'eux. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte, ce qui nous est enseigné dans le Nouveau Testament comme un symbole de notre salut loin de la vie et de l'esclavage, du péché, loin de la juridiction du diable, le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge, ce qui, selon le Nouveau Testament, est un symbole de notre baptême dans la terre promise pour le salut. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, le Saint-Esprit était avec le peuple racheté de Dieu tous les jours. Et le Saint-Esprit s'est manifesté d'une part sous la forme d'une énorme colonne de feu. Il leur donnait de la lumière, mais chaque fois que la colonne de feu se levait et se déplaçait, tout le camp se déplaçait et suivait la colonne de feu. C'était donc l'Esprit de Dieu qui les guidait collectivement de manière visible, Jésus a dit dans Jean, et nous l'avons vu la dernière fois, il est dit, je paraphrase, « L'Esprit demeure avec vous, mais il va demeurer en vous. » Je crois donc que cela symbolise en partie le fait que le même Esprit Saint, qui a visiblement et collectivement conduit le peuple de Dieu, va désormais conduire son peuple, individuellement et intérieurement. Des langues de feu séparées sont venues se poser sur chacun d'eux. Et comme nous le savons tous, le feu se propage rapidement. Je pense que Dieu disait, « Écoutez, vous allez prendre cet évangile du royaume, et comme le feu, il va se propager dans le monde entier, si vous obéissez à ma parole et laissez agir ma puissance. » Pourquoi devrait-il attendre jusqu'à la Pentecôte? C'était 50 jours après la Pâque. Cela fait donc 50 jours que Jésus avait été crucifié. Pourquoi attendre jusque-là? Eh bien, cela aurait imprimé en eux le but principal. Pas le seul but, mais le but principal de l'effusion du Saint-Esprit, de ce baptême dans le Saint-Esprit, parce que la Pentecôte était le festival de la moisson. C'était la fête de la moisson. Chaque année, ils avaient cette fête ou ce festival où ils célébraient la récolte, montrant ainsi qu'en plus de nous bénir personnellement, Dieu nous donne le pouvoir, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, de récolter la moisson tout au long des Écritures. Cette métaphore est utilisée par rapport aux personnes non sauvées entrant dans le royaume comme une moisson que l'on récolte. Dans le livre de Jacques, il est dit, je paraphrase, « Ne croyez pas que Dieu soit lent concernant sa promesse sur le retour du Christ. Comme un cultivateur, il attend les précieux fruits de la terre. » Qu'est-ce que Dieu attend? Pourquoi Jésus tarde-t-il? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Parce qu'il va y avoir une grande moisson d'âmes à la fin des temps dans le monde entier. Et nous devons en faire partie, mes amis. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est représenté assis sur une nuée blanche, une faucille tranchante à la main. Un ange s'écrie et dit, je paraphrase, « La moisson de la terre est mûre. Saisissez votre faucille et moissonnez. » Et il saisit sa faucille et la moisson de la terre est récoltée. Eh bien, mes amis, Jésus est le Seigneur de la moisson, et cette faucille tranchante dans sa main, c'est l'Église. C'est nous. Il se sert de nous pour atteindre l'humanité perdue, qui soupire et qui meurt. Et cette puissance, cette effusion du Saint-Esprit, est venue le jour de la Pentecôte en partie pour nous montrer que c'est pour atteindre les perdus, pour amener les autres dans le royaume. Ainsi, pour récolter cette moisson, nous devons être dotés par la puissance de l'Esprit. Parlant de ce don de l'Esprit-Saint, de ce baptême de l'Esprit-Saint, Pierre a dit ceci à propos de l'événement qui venait de se produire. Actes, chapitre 2, verset 39. Il a dit, « Car la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Le mot pour « église » dans le Nouveau Testament est le mot grec « ecclesia ». Savez-vous ce que cela signifie littéralement ? Les appeler. Si vous faites partie de l'église, vous êtes appelé. Si vous faites partie de l'église, vous êtes appelé. Et ce don est pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte et a rempli les croyants de la chambre haute. Mes amis, vous pouvez faire cette expérience aujourd'hui. Dieu veut que son Église ait la puissance comme dans le passé. Ce jour-là, Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Pour les Juifs, c'était un homme sans instruction, un pêcheur, un homme ordinaire. Mais il a prêché le jour de la Pentecôte. Et il y avait de la puissance dans ses paroles. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui frappait les gens. Et 3000 personnes ont été sauvées ce jour-là. Dieu a utilisé ses paroles. Dieu a oint ses paroles. C'est une étude intéressante si vous parcourez le Nouveau Testament pour voir combien de fois le mot dunamis, la puissance miraculeuse, est utilisé par rapport à la parole en vertu de l'évangile prêché. Et cela fonctionnera avec une foule de milliers de personnes. Et Dieu donnera de la puissance à nos paroles quand nous parlerons à un individu. Beaucoup d'entre vous connaissent mon témoignage entier ou partiel. J'étais plongé dans la toxicomanie et l'alcoolisme très avancé. Et personne ne m'avait jamais parlé de Jésus. Je ne connaissais pas le plan du salut jusqu'à ce qu'un jour, dans un parc, un garçon de 12 ans me parle de Jésus-Christ. Il a parlé comme si Jésus était encore vivant et m'a dit que je pouvais avoir une relation avec lui. Je pensais qu'il était insensé. Mais je ne pouvais pas me détourner de ses paroles. Je ne pouvais pas échapper à ses paroles. En fait, j'ai déménagé. Je suis allé à Mexico. À cette époque, il n'y avait que 11 millions de personnes là-bas. On dirait que cela a doublé entre-temps. Je faisais des choses illégales. C'est grâce à Dieu que je n'ai pas fini dans une prison mexicaine. Je ne pouvais pas m'échapper. J'étais là-bas et je ne pouvais pas refouler les paroles de ce gamin. Elles me hantaient. Elles étaient collées à moi. C'était comme si quelqu'un avait enfoncé un clou dans mon cœur. Je ne pouvais pas m'en détacher. Et un jour, j'ai dit à mes amis là-bas, j'ai dit « Je pars ». Ils ont dit « Quand ?» J'ai répondu « Tout de suite ». Et j'ai sauté dans mon camion. Et j'ai conduit 3000 km jusqu'en Oregon pour retrouver cet enfant de 12 ans. Et par concours de circonstances, je me suis retrouvé dans une mission de rue où j'ai été sauvé. C'était plein de sans-abri, avec des gens qui avaient des problèmes de drogue. Et j'étais le seul à avoir répondu à l'invitation d'accepter Christ ce soir-là. Eh bien, vous savez quoi ? J'étais un chrétien, fraîchement sauvé. Et j'étais avec cet enfant et sa mère. Et ils m'ont demandé si je voulais aller avec eux à l'hôpital. Ils allaient rendre visite à quelqu'un. J'ai dit « bien sûr ». Et nous y sommes allés. Nous avons trouvé la chambre et la mère était en train de parler à un type. Et quand je me suis retourné, l'enfant avait disparu. Ce gamin de 12 ans avait disparu. Je me suis dit « Ah, il faut que je le retrouve ». Je suis donc allé partout dans l'hôpital, errant dans le couloir. Je l'ai cherché dans un couloir. Je ne l'ai trouvé nulle part. Ensuite, je suis arrivé dans un hall. Là se trouvait un banc à l'extérieur de la chambre et il y avait un homme assis sur le banc. Il avait une blouse d'hôpital qui était ouverte à l'arrière. Il était assis sur le banc et il sanglotait. Je me suis rapproché et j'ai dit « Vous allez bien ?» Il a dit « Qui était ce gamin ?» Il a dit « Les médecins m'ont dit que j'avais une maladie incurable et qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Et ce gamin est entré dans ma chambre. Et il m'a dit que Jésus est un guérisseur et que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Qui est ce gamin ?» Et j'avais envie de dire « Je vois ce que tu veux dire. » Il m'a fait la même chose. Je vais vous dire qui il était. C'était un garçon de 12 ans, aimant Jésus, rempli de l'esprit et parlant en langue. Dieu a oint ses paroles. Dieu oindra vos paroles si vous ouvrez simplement votre bouche. Quand l'Esprit Saint est venu, j'aime cela, il y avait le feu, il y avait l'illumination, il y avait un bruit. Et vous devez faire du bruit. Nous devons ouvrir notre bouche. Nous devons le dire à quelqu'un. Et l'Esprit Saint donnera du pouvoir à nos paroles. Je me souviens encore d'un mari et d'une femme qui sont venus à l'église il y a des années. Et la femme avait un cancer de l'estomac. Et je pense qu'ils avaient visité toutes sortes de médecins et suivaient un traitement. Mais un de ses amis lui a dit, « Écoute, vous devez aller dans mon église. Ils prient pour les malades dans mon église. Je pense que Dieu pourrait vous aider. » Ils sont donc venus. Ils croyaient en Dieu. Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils croyaient en Dieu et en la Bible. Il y a beaucoup de gens qui sont ainsi, mais ils ne se sont jamais convertis. Et je me souviens que nous nous sommes assis pendant probablement 20 minutes. J'ai parcouru les passages sur la guérison les uns après les autres et je leur en ai parlé. Et j'ai dit, « Voyez-vous cela? Vous voyez, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous à cette promesse ?» Ils ont répondu, « Oui, nous le croyons. » Nous, moi et d'autres membres du personnel, lui avons imposé les mains et avons prié pour elle. Elle est allée au traitement, ils ont fait des tests et ont dit, « Quelque chose a changé. » Ils ont poursuivi avec des radios et plusieurs autres tests, et toute trace de cancer avait disparu. Un merveilleux miracle. Mais la chose merveilleuse est que le dimanche suivant, elle était à l'église, son mari était à l'église, tous leurs enfants étaient à l'église. Tous ont répondu à l'appel de conversion et ont avancé pour donner leur vie à Jésus. L'Esprit Saint veut agir en nous et pour nous, mais il veut aussi agir à travers nous. Et c'est une parole importante, à travers. Aucune chair ne se glorifie de sa présence. Dieu utilise des choses insensées, mes amis. Si vous vous sentez inadéquat, je veux simplement vous dire que vous êtes qualifié. Or, ce jour-là, lorsque l'Esprit a été déversé, Dieu a même utilisé le parler en langue pour atteindre les gens. C'est vraiment un événement unique. Nous n'allons pas prendre le temps de le lire. Mais il est dit qu'il y avait à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Et le texte énumère les pays de manière exhaustive. Il y avait donc beaucoup de gens qui étaient venus, des Juifs qui étaient venus vivre à Jérusalem et qui étaient en fait originaires d'autres pays et qui avaient encore des familles et des amis dans ces autres pays. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus du monde entier uniquement pour cette fête de la moisson. En fait, le texte mentionne aussi plusieurs personnes qui vivaient dans d'autres pays mais qui étaient là à cause de la moisson. Et donc, cette expérience, dans la chambre haute, s'était répandue jusque dans la rue. Ils parlaient en d'autres langues. Je suppose que Dieu utilise souvent des méthodes peu orthodoxes. Si j'avais pensé à une façon de commencer l'église, je n'aurais pas songé à envoyer 120 personnes dans la rue parler en d'autres langues. C'était bizarre. Mais c'est ce que Dieu a fait. Un miracle a eu lieu et tout le monde était troublé. Il disait, « Nous pouvons les entendre parler dans nos langues maternelles. » Bon, le miracle était peut-être lié autant dans l'écoute que dans la parole. Il disait, « Chacun d'entre nous, nous les entendons parler, et nous savons qu'ils ne parlent pas notre langue natale. » Et Pierre utilise cette occasion pour prêcher. 3000 personnes sont sauvées. Pendant un culte dans notre église de Cottonwood, j'étais bien présent quand c'est arrivé. Je m'en souviens très clairement. Nous avions une femme dans l'église, son mari et elle vivent maintenant dans le Montana. En fait, il y a probablement 20 ans, c'était une femme charmante, adorable. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur et avait un véritable don prophétique sur sa vie. Je la respectais vraiment, de même que sa sensibilité au Saint-Esprit. C'était donc pendant un culte comme celui d'aujourd'hui. Et parfois, elle prononçait une parole en langue qui était interprétée et bien d'autres choses. Mais elle a simplement levé les mains en adorant et elle a commencé à adorer Dieu et à chanter dans d'autres langues. Et vous devez savoir que Dieu utilise en quelque sorte notre personnalité. Elle était plutôt bruyante parfois. Et donc elle chantait bruyamment dans d'autres langues. Et il y avait un homme, là, tout près, et il était assis sur le siège voisin, ou peut-être debout. Il n'arrêtait pas de la regarder. Tout le monde était assis. Je me suis levé et j'ai prêché et invité les gens. Et cet homme l'a suivi après le service. Tout cela s'est passé devant l'église. J'étais là. Et il a commencé à lui parler. Elle ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. Elle a dit, « Je suis désolée, je ne comprends pas. » Et il a continué à lui parler dans cette autre langue. Elle a dit, « Écoutez, je ne parle que l'anglais. » Et il a répondu, « Ne me dites pas cela. » Il a dit, je vous ai entendu dans un hébreu parfait, impeccable, glorifier Dieu, alors que tout le monde ici chantait. Il s'avère que c'était un homme juif, pas un chrétien, un homme juif. Il parlait lui-même l'hébreu. Un ami l'avait amené à l'église pour jeter un coup d'œil. Il s'est remis à lui parler hébreu. Elle a dit, je vous le dis, je ne parle pas hébreu. Il a répondu, je vous ai entendu, vous le faites. Elle a dit, non, mais je parle en langue. Et elle lui a expliqué tout cela. Il était abasourdi, absolument sidéré. Pour ceux qui veulent savoir, S'il a été sauvé, je crois que non. Mais il lui est arrivé quelque chose dont il ne pourra jamais se défaire. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ce jour-là, mais il n'a pas confessé Jésus ce jour-là. Dieu a fait quelque chose pour lui. Je pense que nous comprenons, et vous le comprendriez si vous êtes un étudiant des Écritures, que l'un des principaux objectifs du parler en langue est la dévotion personnelle et l'édification personnelle. Paul a beaucoup écrit à ce sujet, et je veux vous citer quelques versets. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, il a dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Eh bien, Paul a dit la même chose dans un autre suivant, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Il a dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. » Vous pouvez surnaturellement parler la langue d'une région dans le monde sans l'avoir jamais apprise, ou vous pouvez parler dans une langue angélique, une langue céleste. C'est pourquoi les gens l'appellent votre langue céleste. Mais le but principal de cette langue est la dévotion, la communication avec Dieu. Et il y a un grand avantage à parler à Dieu. Aucun homme ne me comprend. Cependant, je parle des mystères de l'Esprit. Il poursuit au verset 4. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Alors oui, c'est pour moi, et ce mot « édifier » signifie « bâtir en hauteur de manière graduelle ». En fait, si nous traduisions dans un langage contemporain, la traduction la plus proche de « celui qui parle en langue, s'édifie lui-même » serait « se charge comme une batterie ». Et j'ai pensé à cela. Quelle bénédiction! Ce microphone que j'ai en ce moment a une batterie à l'intérieur. La plupart du temps, nous utilisons des piles rechargeables. Quand la batterie est déchargée, nous la rechargeons. Mais la batterie ne se recharge pas toute seule. Elle donne ce qu'elle a. Vous la mettez dans une lampe de poche pour qu'elle brille. Vous la mettez dans un microphone pour que le microphone fonctionne. Ce n'est pas la petite batterie qui dit « Je suis béni, je suis si chargé, regardez-moi !» Mais je pense que parfois, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. C'est presque comme non. Il vous charge. Mais c'est pour autre chose. Vous en recevez la bénédiction. Vous en recevez l'édification. Vous en obtenez la force. Mais ce n'est pas seulement pour vous. La batterie est chargée pour autre chose. La batterie est chargée pour autre chose. Et quelqu'un dit, il ne se passe jamais rien dans ma vie. Peut-être que votre batterie est faible. Peut-être que vous devez charger votre batterie. Oui. J'ai appris ce secret d'une dame nommée Maman Abbott. Elle avait 80 ans. Et elle est devenue mon amie quand j'étais un tout nouveau chrétien. Elle avait une petite ferme et j'allais traire ses chèvres et m'occuper de ses animaux. Une fois, j'ai aidé le vétérinaire à castrer un cheval, une chose que je ne ferai plus jamais. Mais j'allais passer beaucoup de temps avec maman. Elle avait 80 ans. Elle avait construit et soutenait un orphelinat en Inde. Elle avait construit un autre orphelinat au Mexique et le soutenait. Elle avait fait traverser la frontière à 6 orphelins du Mexique. Elle avait 80 ans. Elle élevait 6 adolescents toute seule. 80 ans. Une femme étonnante, une telle force. Elle avait une entreprise de nourriture saine. Elle faisait une sorte de mélange d'aliments sains qu'elle vendait au magasin bio de l'Oregon. En plus de cela, chaque été, elle prenait sa voiture et allait prêcher dans différentes églises. Elle était pleine d'énergie. Et j'ai appris quelque chose sur maman. J'ai appris un secret d'elle. J'allais parfois lui rendre visite et passer du temps avec elle. Je disais bonjour aux enfants, je disais « Hé, maman est là ?» Oui, elle est en haut. Je montais et disais « Maman, c'est Bélès. » Et elle disait « Entre !» J'entrais dans la pièce et elle faisait les 100 pas parlant dans d'autres langues. Elle priait dans d'autres langues. Elle disait « Assieds-toi, mon fils. » Et elle continuait pendant 5 ou 10 minutes à prier en langue. Et elle disait, « Tu as quelque chose à me demander ?» Je répondais, « Oui, madame. » Et je posais une question. Et elle me donnait la réponse. Et elle recommençait à prier en langue. Et en faisant des allers-retours devant moi, elle disait, « Tu as autre chose que tu veux savoir ?» Et je lui demandais, et elle me le disait. Et elle recommençait à prier en langue. Une fois, elle et moi allions à une réunion. Je conduisais. Elle a parlé en langue pendant 30 minutes sur tout le trajet en voiture. Quelque chose me préoccupait vraiment. Et j'ai dit, « Maman, j'aimerais que tu pries avec moi pour quelque chose. » Et je lui ai expliqué. Elle m'a répondu, « Pas besoin de prier. » J'ai eu la réponse dans l'esprit pendant que je priais en langue en venant ici. C'est déjà fait. C'est déjà résolu. Dieu m'a déjà montré. Incroyable! En tant que disciple de Jésus-Christ, je peux dire merci à Dieu pour l'Esprit Saint et sa puissance. Merci à Dieu pour le baptême dans l'Esprit Saint, une expérience ultérieure au salut. D'une part, Nous avons un puits en nous qui débouche sur la vie éternelle. Et en plus de cela, ce puits déborde pour devenir des rivières d'eau vive qui jaillit de nous. Les fleuves produisent de l'énergie. Les fleuves font tourner des roues. Ils font tomber les pierres, encore et encore. En tant que croyant, oui, remercions Dieu pour cette œuvre de l'Esprit-Saint dans le salut. C'est ce puits, cette source en nous qui bouillonne jusqu'à la vie éternelle. Mais l'Esprit-Saint peut aussi être ces fleuves qui sortent de nous. Et une partie de ce baptême dans l'Esprit-Saint, comme nous le voyons dans le livre des Actes, quand les croyants ont été remplis, ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je crois que c'est une expérience qui est accessible à tous les croyants. Le sang de Jésus nous rend aptes à aller au ciel. L'Esprit-Saint nous donne la puissance pour vivre sur terre.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.